Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir.
Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité.
La stratégie zéro Covid appliquée en Chine sera-t-elle fatale à son président Xi Jinping ? On voit ça dans un instant.
Les cotes étudiants sont de plus en plus chers, on décrypte dans le dossier écho du jour.
Mais avant ça, le militaire d'extrême droite Jürgen Konings commençait sa cavale il y a un an. On verra quelles leçons l'armée a tirées de cette affaire.
Nous sommes le mardi 17 mai, je m'appelle Pierre Fagnard.
Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Il y a un an, le caporal Jürgen Konings s'emparait d'un arsenal militaire avant de disparaître dans la nature.
Vu son profil, sympathisant des thèses d'extrême droite, une véritable chasse à l'homme tentera de le débusquer. Sans succès, sa dépouille sera retrouvée un peu plus d'un mois après sa disparition. Un épisode marqué par plusieurs dysfonctionnements au niveau de la surveillance des profils problématiques, au niveau de la communication entre les différents services. Au plus fort de l'affaire, les autorités militaires annonçaient une série de mesures, de réformes, ont fait le point sur celle-ci avec Frédéric Delepierre, spécialiste des questions de défense.
Tant la ministre Livine Denonder que le chef de la défense, l'amiral Hoffmann, ont pris les choses à bras-le-corps, constatant qu'il y avait eu des dysfonctionnements et qu'il fallait agir. Et donc la ministre et le chef de la défense ont annoncé des réformes. Certaines sont déjà effectives, d'autres doivent encore faire l'objet de discussions, de tractations et aussi pour certaines de changements de législation.
Parmi toutes ces réformes, il y a notamment le screening du personnel de la défense qui sera beaucoup plus abouti qu'avant.
Oui, tout à fait. Donc le screening prend deux formes. Il y a tout d'abord, lorsqu'un militaire est engagé, les services psychologiques notamment analysent avec différentes bases de données civiles et militaires le profil de la personne afin de voir si elle correspond aux normes et aux valeurs de l'armée, à savoir donc si elle n'appartient pas à un mouvement extrémiste quel qu'il soit. Les civils jusqu'à présent ne faisait pas l'objet d'un screening. Ça va changer, enfin ça a changé d'ores et déjà, même si une législation va être adaptée. Mais au sein de l'armée, déjà maintenant, on a changé, on a franchi le pas et donc un civil, lorsqu'il est engagé, fait l'objet d'une surveillance. Ça, c'est un point. Le deuxième point concerne l'habilitation de sécurité. Il faut savoir que pour occuper certains postes, les militaires ou civils d'ailleurs, doivent aussi disposer d'une habilitation de sécurité et là, ça va beaucoup plus loin. On analyse vraiment toutes les informations possibles, on interroge la personne et là, la ministre avait émis le souhait qu'au cours de sa carrière, le militaire doit subir ce genre d'examen à plusieurs reprises, si possible tous les 5 ans, militaire et civil. Et donc là, la réforme est en cours également.
Au niveau du SGRS, les services généraux de renseignement et de sécurité, ils ont été particulièrement mis à mal dans le cadre de l'affaire Konings. Ça va changer aussi à l'avenir ?
Oui, là, une réforme en profondeur est en cours. Donc il faut savoir que le patron du SGRS a été changé suite à l'affaire Konings. L'une des premières choses qui a été mise en place, c'est le recrutement, parce que le SGRS manquait cruellement de personnel. 40 personnes ont déjà été engagées, 40 autres vont l'être. Ça prend du temps, ces gens doivent être formés. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, vous voyez, il y a aussi les échanges d'informations entre les différents services de l'armée, y compris le SGRS, et vers l'extérieur, vers la sûreté, vers la police, vers le parquet. Et là aussi, le SGRS a bien compris qu'il fallait changer et la réforme est clairement en cours aussi. Oui.
Ce qui avait étonné au début de l'affaire Konings, c'était aussi l'accès facile qu'avait eu le militaire à des armes, à des munitions. Cet accès, il sera plus restreint à l'avenir.
Oui, il faut savoir que normalement, un militaire ne peut pas avoir accès à l'armurerie et au local des munitions. Normalement, ce sont deux personnes différentes qui doivent avoir accès à ces deux locaux. Il se fait que Jürgen Konings et deux, trois de ses collègues faisaient partie d'un service particulier, ce qui fait que lui et ses quelques acolytes avaient accès aux deux locaux. Mais ça a été possible aussi à cause du Covid, c'est en tout cas ce que me disent les responsables de l'armée, à savoir qu'on était en sous-effectif à ce moment-là et que Jürgen Konings a pu se fournir en armes et en munitions, ce qui n'aurait pas dû arriver. Mais donc là aussi, maintenant, tout a été mis en œuvre pour que ça n'arrive plus jamais. Et la petite cellule de Jürgen Konings, qui était assez autonome, fait maintenant partie d'une brigade à Bourg-Léopold et elle est mise un peu sous contrôle.
Dernier chantier, et pas le moindre, de l'après Jürgen Konings, c'est une charte des normes et des valeurs de la défense.
Oui, c'est bien ça. Donc jusqu'à présent, bon, il y avait une espèce de code de bonne conduite qui consistait en 4 points. Tu peux faire ceci, tu ne peux pas faire cela. C'était assez limité. Et donc là, la ministre a clairement insisté pour établir une charte des normes et valeurs. Ça consiste en 200 points très précis. Elle est élaborée avec les syndicats. Ça prend un peu de temps, mais au moins, toutes les instances possibles pourront clairement déterminer si un militaire a fauté ou pas, quelles seront les sanctions qui pourront lui être décernées, parce que au-delà de la charte des normes et valeurs, qui est quelque part préventive, il y a aussi un nouveau code des sanctions qui est élaboré là aussi avec les syndicats. On parle bien du code de conduite interne, ça n'a rien à voir avec la justice, là, hein. C'est ce qu'ils appellent la discipline de corps. Et donc là, tout ça est en élaboration aussi, et là aussi, pour tout ce qui est sanctions, ça nécessiterait un peu de temps, parce que ça doit passer aussi au Parlement, parce que c'est un texte législatif qui doit être élaboré.
Grand angle.
La fin de l'année approche pour les étudiants, c'est le moment de réviser ses examens, mais aussi de chercher un logement.
Et le code reste prisé en Belgique, que ce soit en colocation, en résidence ou en habitat partagé. Mais les prix augmentent, les chambres d'étudiants sont de plus en plus confortables et le marché se professionnalise. C'est le dossier du supplément Soireco aujourd'hui et c'est Arthur Parzi qui a travaillé sur le sujet. Bonjour Arthur.
Bonjour Sandrine.
Le prix moyen des cotes augmente en Belgique, on est dans quel ordre de grandeur ?
Il y a une étude qui a été faite par le bureau immobilier Stadim et une organisation Digit Student Life. Ils ont fait ce qu'on appelle le code Compass, donc c'est une sorte d'évaluation du marché. Et la moyenne qu'ils donnent pour tout le territoire belge, c'est 415 euros pour un code étudiant sans charge.
Par mois.
Par mois, tout à fait. Alors si on compare ça au prix par exemple de l'année passée, donc le code Compass de l'année passée, on était à 400 euros. Donc on voit déjà qu'il y a une augmentation en un an seulement de 15 euros, encore une fois sans les charges. Quand on voit cette augmentation, on peut aussi faire une distinction entre les régions, puisque ça c'est une moyenne nationale, et là on voit par exemple que Bruxelles est la ville qui est en fait la plus chère, la région même qui est la plus chère par rapport à la Flandre et à la Wallonie. Et si on compare entre villes vraiment, on voit que Bruxelles est 100 euros plus chère que Namur ou une ville comme Liège, qui sont deux villes étudiantes importantes, et là où l'augmentation a aussi été la plus grande en fait entre 2021 et 2022.
Pourquoi ces prix augmentent ?
Donc la raison principale de l'augmentation des prix, c'est l'équilibre ou le déséquilibre qu'il peut y avoir entre offre et demande. Dans les 20 dernières années, le nombre d'étudiants n'a cessé d'augmenter, mais l'offre de cotes n'augmente pas pour autant et ne suit pas la même courbe que le nombre d'étudiants. Pour prendre le cas de Bruxelles, par exemple, il y a une étude qui avait été faite par l'association flamande BRIC qui disait qu'à notre époque maintenant, il manque 10 000 logements étudiants dans la région bruxelloise et qu'au plus on avance dans le temps, au plus cette pénurie pourrait augmenter jusqu'à 50 000 en 2030. Donc. Et ça ne concerne pas que Bruxelles, la ville de Mons, par exemple, est aussi confrontée de plus en plus à un manque de logements étudiants. C'est ce que la FEF, la Fédération des étudiants francophones, disait. Et elle disait que Mons serait en fait la ville où les cotes seraient les plus chères.
Alors une autre raison de cette augmentation des prix des cotes, c'est que les logements étudiants sont de plus en plus confortables.
En tout cas, les nouveaux cotes sont de plus en plus confortables. Ça, on s'en rend compte aussi. Je regardais par exemple sur le site Brucotes, qui est un des sites les plus importants en matière de recherche de cotes sur Bruxelles. Et là, il y avait un onglet résidence. J'ai été voir dans les archives du site et je voyais que par exemple en 2016, il y avait 3 résidences qui étaient répertoriées et en 2022, on était à 16 résidences. Donc quand on parle de résidences, en fait, ce sont des sortes d'immeubles qui sont dédiés uniquement aux étudiants. Il peut y avoir 30, 50, parfois 100 chambres dans une même résidence avec une sécurité, avec des sas d'entrée sécurisés, mais aussi avec des infrastructures, des lavoirs par exemple. Il y aura des espaces verts, des salles aussi où tous les étudiants peuvent se réunir pour faire la fête. Et puis souvent aussi de plus en plus, des sanitaires privés. Et ça, c'est les acteurs du marché qui me l'ont dit. On a constaté au fur et à mesure que les étudiants n'ont plus envie, comme c'était le cas peut-être il y a 20 ans, de vivre dans des conditions parfois un peu spartiates où on a un petit lit et puis on partage une salle de bain à 10 et une cuisine aussi à 20 où on mange dans la même poêle tous les jours. Bon, c'est un peu caricatural, mais on voit que c'est pas tant du luxe, mais c'est une volonté de confort qui a grandi ces dernières années. C'est une offre qui est plus confortable et qui donc peut aussi être plus chère.
Est-ce que c'est une évolution qui concerne l'ensemble du marché des cotes ? Est-ce que les cotes sont plus confortables ?
C'est là qu'il peut se poser un certain problème, c'est qu'on constate que ces nouveaux cotes-là sont très confortables et du coup aussi plus chers, mais c'est pas pour autant que le reste des cotes augmente en qualité. Je parlais de ça avec Floriane Philippe, qui est la directrice de l'agence immobilière sociale étudiante à Bruxelles, et elle me disait, en fait, on remarque une tendance de fond, qui va d'ailleurs en s'accélérant à Bruxelles, c'est qu'on a une séparation entre des constructions qui sont plus neuves, plus belles, et même parfois aussi inaccessibles pour une grande partie des étudiants, et des étudiants qui vont se diriger vers l'autre partie du marché, qui est un vieux bâti bruxellois qui n'est pas toujours aux normes, mais qui par son prix attire aussi une partie des étudiants.
Alors, au cours de vos recherches, vous avez aussi constaté que les personnes qui louent des chambres étudiantes sont de moins en moins des particuliers et de plus en plus des professionnels.
Oui, les goûts ont évolué et on peut plus se satisfaire autant qu'avant de bricolage. On remarque aussi que les régions ont édicté de nouvelles normes pour gérer les cotes. Donc, ça veut dire que des meilleures conditions de vie sont imposées au fur et à mesure. Ça nécessite des meilleurs aménagements dans les cotes. Et ça, les professionnels savent parfois mieux le gérer que des particuliers. Et puis, on se rend compte aussi que ce qui parfois décourage un petit peu le particulier, c'est que les villes ont voulu éviter ce qu'on appelle la cotamination. La cotamination, c'est le fait qu'avant, parfois, on prenait des grandes maisons, des maisons de maîtres, des maisons unifamiliales, et on les divisait en une série de cotes. Ça mettait aussi une pression sur le reste du marché immobilier, puisque ces logements-là n'étaient plus accessibles, par exemple, aux familles qui venaient vivre en ville. Et donc ça aussi, ça a évolué. On a voulu éviter cette cotamination, et donc on a été construire des résidences, par exemple, pour garder les étudiants dans un même milieu et garder des logements accessibles au reste des familles.
Pour résumer, est-ce qu'il y a une pénurie de cotes en Belgique ?
Alors à Bruxelles, c'est certain, il y a une pénurie de cotes. Il manque surtout de cotes accessibles financièrement aux familles et aux étudiants. C'est pas le cas partout non plus. J'avais contacté plusieurs acteurs dans différentes villes. Thibaut Bouvier, qui fait partie des Côtes Bouvier, c'est un acteur très important en Namur, il me disait, en fait, chez nous, le marché est à l'équilibre. C'est un marché qui est mature et le problème, c'est que certains crient justement à la pénurie pour faire d'une certaine manière augmenter les prix. Les parents ou les étudiants vont vouloir payer plus. Puis il y a des villes comme Louvain-la-Neuve, par exemple, où là, la situation est aussi un peu plus à l'équilibre, notamment parce qu'il y a une offre des cotes de l'université plus importante et qui permet d'équilibrer le marché aussi.
Merci Arthur.
Merci Sandrine.
Dans l'actualité internationale, la Chine affronte sa plus forte poussée épidémique depuis l'apparition du Covid-19. Le pays a, dans ce contexte sanitaire difficile, dévoilé ses pires performances économiques en 2 ans.
Deux tâches sur le bilan du président Xi Jinping. La stratégie zéro Covid et ses multiples confinements semblent montrer ses limites. C'est ce que nous explique Véronique Kizel du Service Monde.
Non, ça ne marche plus parce que Omicron est venu mettre la pagaille dans ce système qui avait fait ses preuves jusqu'ici, puisque la Chine avait pu commencer avant le reste du monde à fonctionner normalement, mais ce coup-ci, c'est trop contagieux et donc on a vu à Shanghai, le zéro Covid n'a pas pu être imposé tout de suite et on a vu après toutes les vidéos qui tournaient avec tous ces abus, les immeubles scellés, les enfants arrachés aux parents, les centres de confinement délabrés et surpeuplés, donc non, ça ne marche plus.
C'est une façon de voir la lutte contre la pandémie qui semble montrer ses limites. L'optique « on est plus fort que la nature, donc on finira bien par vaincre le virus à un moment ou un autre », ça montre que, en fait, pas tellement.
Non, non, cette fois-ci c'est vraiment un échec puisque en fait ça paralyse toute l'activité économique. On voit que toutes les usines manquent de pièces, le transport ne marche plus, le cargo aérien aussi dans les ports, donc tout est perturbé gravement, donc ça nuit à l'économie. Il y a des chiffres qui sont sortis ce lundi qui montrent que le mois dernier a vraiment été mauvais et donc c'est assez inquiétant pour la croissance chinoise et donc aussi pour le reste du monde vu que nous sommes tous interconnectés.
Il y a des voix en Chine qui appellent à changer de stratégie.
Oui, oui, déjà en fin mars ou début avril, notamment des médecins à Shanghai, avaient dit très calmement, de manière très constructive, en disant qu'il faudrait changer de stratégie, il faut qu'on importe des vaccins occidentaux qui sont plus efficaces, qu'on vaccine plus largement, qu'on apprenne à vivre avec le virus, à coexister, on ne va pas s'en sortir comme ça. Et ils ont été complètement étouffés. Et même quand le patron de l'OMS, la semaine dernière, a fait le même appel, a expliqué que la stratégie chinoise n'était pas durable, n'était pas tenable, ça a été complètement censuré.
Et cette stratégie, elle ne va pas changer parce que si on prend un petit peu de hauteur, on se rend compte que les risques sont gigantesques pour la Chine.
On se rend compte qu'un centre d'études médicales a fait des projections et que la pandémie pourrait vraiment provoquer d'innombrables cas, que les services soins intensifs chinois sont tout à fait insuffisants et que donc ils seraient noyés et qu'il y aurait 1,5 million de morts, surtout parce que les personnes âgées chinoises se méfiaient du vaccin et ne sont pas vaccinées.
D'autant plus que pour le pouvoir, ce serait reconnaître qu'ils se sont trompés.
Oui, déjà qu'en Occident, les hommes politiques ne sont pas toujours très enclins à faire leur mea culpa et à dire « je me suis trompé, j'aurais rien de ma politique », mais alors en Chine, c'est quasi impraticable.
Et justement, cette gestion de la pandémie, elle a donc, on l'a dit, des conséquences directes sur l'économie. Elle pourrait en avoir aussi sur la vie politique chinoise.
Oui, parce que donc en novembre prochain aura lieu le 20e congrès du parti qui devrait entériner un troisième mandat pour Xi Jinping, ce qui est tout à fait inédit. Avant lui, c'était limité à 2 mandats. Donc ça semblait être un billard, une voie royale. Et puis bon, on voit que la situation se complique. Alors au sein du parti communiste chinois, qui est très opaque, c'est compliqué de savoir ce qui s'y passe. Mais on se rend compte qu'il y a quand même vraiment des luttes de clans et qu'une partie des opposants Xi Jinping, qui n'a pas que des amis, essaie de profiter de cette situation, d'une crise majeure où Xi Jinping s'est trompé, c'est lui qui a imposé cette politique à tout craint. Et donc peut-être qu'il va être réélu pour ce troisième mandat en novembre prochain, mais il y a quand même des incertitudes, ce qui est très rare. En général, en Chine, il n'y a pas d'incertitude et cette fois-ci, il y en a.
bouche à oreille.
Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction.
Aujourd'hui, Julie Huon a une suggestion pour vous faire redécouvrir les sciences de manière ludique. C'est Sparco à Frameri, l'ancien pass, entre un parc d'attractions et un musée.
Le but de l'endroit, c'est de découvrir les sciences par l'expérience et le jeu et d'inciter notamment les jeunes à se lancer dans des carrières scientifiques parce qu'on pourrait croire que c'est un petit peu les sciences, voilà. Et là, on essaye de nous dire, ben non, ça peut être très drôle et surtout, c'est tous les défis de demain. C'est vraiment important. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à Sparco ? Ben, c'est un immense espace de 12 000 mètres carrés dans lequel on peut faire relever des tas de défis, faire des tas d'expériences. Par exemple, vous pouvez essayer de surpasser Usain Bolt sur la piste d'athlétisme, comparer votre cerveau à celui d'un chat. Vous pouvez essayer de comprendre comment l'énergie se transforme, ce qui se passe dans nos corps, etc. Il y a aussi un sentier nature à l'extérieur où on peut flâner à pieds nus. Il y a un film aussi, un film en 4D projeté sur 5 écrans qui est la nouveauté de ce printemps pour comprendre l'intelligence sensorielle et vraiment les capacités intellectuelles des animaux. Il y a un truc sympa qu'ils ont lancé aussi chez Sparco, ce sont des capsules vidéo qui s'appellent C'est Génial. On peut voir ça sur www.cgenial.be et en fait ce sont des personnes issues du monde scientifique qui demandent à des stars de TikTok, Instagram et YouTube de relever des défis, des trends mais intelligents. Et par exemple, faire tenir un verre d'eau à l'envers sur la tête d'un ami ou d'une amie sans se mouiller. Ou bien pirater la couverture d'un magazine avec sa propre photo. Ou bien tout bêtement, comment imperméabiliser ses baskets. Tout ça, c'est de la science et c'est de la vie. Sparco, ça se trouve à Frameri, aux 3 rue de Mons. Et le site, c'est donc www.sparkoh.be.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h.
En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée.
À demain.